RCF.
Il sera question de pierres précieuses, de reliques et de reliquaires, d'or et d'argent dans notre échange. Muriel Gaud de Ferragut, bonjour.
Bonjour.
Un véritable trésor, mais pas n'importe quel trésor, puisque nous allons parler dans ces entretiens du trésor du roi. Un ensemble d'objets inestimables auxquels vous consacrez un livre paru chez Perrin. Vous êtes maîtresse de conférence à l'université Sorbonne Paris Nord et vous êtes spécialiste de pouvoir et des représentations au Moyen-Âge. Alors, de pouvoir, il en est bien sûr question à travers ce trésor qui a pour fonction essentielle d'illustrer ce pouvoir. Mais d'abord, à quelle période est-ce qu'on se situe ?
Alors, j'ai commencé l'ouvrage avec les fameux rois maudits que tout le monde connaît de Maurice Druon. Et donc, Philippe IV le Bel ouvre un petit peu le bal et ses fils. C'est-à-dire que nous sommes au XIVe et XVe siècle, avec, en 1328, c'est le grand changement de branche, donc des Capétiens directs aux Valois. Et du coup, une problématique qui est la suivante, il va falloir légitimer pour les Valois leur pouvoir, qui est contesté à la fois, eh bien, à l'extérieur, ça va être le déclenchement de cette fameuse guerre de Cent Ans entre les Anglais et les Français. Mais il doit aussi légitimer son pouvoir à l'intérieur même du royaume, puisqu'il est contesté par Charles d'Évreux Navarre. Et donc, on connaît un certain nombre de révoltes, notamment contre le roi Charles V. Et c'est ce roi Charles V qui ouvre l'ouvrage, justement, puisqu'il est au sein du palais de la cité. Et tout d'un coup, Étienne Marcel et ses compagnons donc entrent dans la chambre du dauphin de Charles V, du futur Charles V, et tuent ses maréchaux devant lui. À partir de ce moment-là, Charles V, bien, quand il devient roi, va tenter d'affirmer sans cesse son pouvoir, et le trésor, justement, des rois y participe.
Qu'est-ce que c'est qu'un trésor ? C'est un mot du vocabulaire courant qui fait appel à l'imaginaire. Là, en l'occurrence, dans votre livre, d'un point de vue historique, de quoi est-ce qu'on parle ?
Alors, le trésor, c'est un terme polysémique, et vous avez donc, du coup, de multiples acceptions. Alors attention, le trésor des rois existe depuis toujours, en fait, puisqu'il s'entoure justement d'or, d'argent doré. Mais ce trésor, donc, devient, on sait bien plus précisément ce qui le constitue, à partir du moment où, au XIIIe, XIVe et XVe siècle, on dispose vraiment d'archives, hein, de sources. Donc c'est ce qu'on appelle la fameuse révolution documentaire. Et donc là, pour la première fois, on va avoir vraiment des inventaires très précis, en fait, des biens que possédait le roi. Et donc, c'est ce qui constitue ce fameux trésor.
À cette époque-là, qu'est-ce qui est précieux ? Donc là, on se situe au XIIIe et XIVe siècle, hein, essentiellement. Qu'est-ce qui représente vraiment des objets inestimables ?
Alors, effectivement, donc, dans les inventaires sur ce fameux trésor, c'est l'inestimable, c'est le précieux. Qu'est-ce qui représente cette valeur inestimable ? Des pièces, il va y avoir beaucoup de pièces orfévrées. Donc d'or, d'argent doré, en général serti de pierres précieuses, de perles, de diamants. Ça constitue le trésor, mais pas seulement. Hein, on voit toujours ces monceaux d'or quand on pense au trésor. Mais attention, quand on voit l'inventaire justement des pièces du trésor, eh bien les tapisseries, les livres, les robes figurent aussi dans cet inestimable, ce précieux. Il faut bien voir que les robes étaient tissées de fils d'or aussi. Les tapisseries donc, et les manuscrits, des manuscrits qui étaient souvent richement enluminés aussi. Donc tout ça, ça fait vraiment partie du trésor. Et à la mort du souverain, eh bien, vous avez en général un inventaire. Et pour certains, donc, il y a une valeur finalement, hein, parce qu'on va vendre certaines pièces du trésor. Et donc on va donner cette valeur. Et donc là, on voit ce qui est vraiment l'inestimable, le très précieux.
Cette fonction que vous avez évoquée du trésor, qui consiste à affirmer un pouvoir, à asseoir la légitimité d'un prince ou d'un roi, c'est un ressort assez commun à cette époque-là, où là, avec la France et cet exemple, on a quelque chose d'assez unique.
Alors, ce que j'ai voulu montrer aussi, c'est que le trésor, pendant longtemps, et notamment le trésor en relique, puisque l'ouvrage est aussi consacré à ses reliquaires, pendant longtemps, on va donner les pièces du trésor à sa mort, en général à une abbaye, à une église. Et avant tout, ce qu'on souhaite, c'est le salut de l'âme. Et donc, on a une espèce de rétrocession là, propitiatoire. On va donner telle pièce du trésor et en échange, on va obtenir des prières. Et la grande nouveauté, donc, d'abord en France, au XIIIe siècle, donc Louis IX, on va sans doute y revenir, mais quand il acquiert cette fameuse couronne d'épines et pièce de la vraie croix, là où son grand-père, Philippe Auguste, aurait cédé ses pièces à l'abbaye de Saint-Denis, donc toujours avec cette fameuse rétrocession, Louis IX fonde cette fameuse Sainte-Chapelle, et donc il s'agit de que le trésor demeure au sein du palais des rois. Et donc le grand changement au XIIIe siècle, c'est que finalement le trésor personnel du souverain va sans cesse grossir. Et c'est lié aussi au développement des cours, mais là dans l'ensemble des cours européennes. Donc il faut bien voir que le processus français, en fait, il faut vraiment le replacer dans une histoire européenne hein, de ces cours.
Avec beaucoup de circulation finalement.
Les pièces du trésor circulent sans cesse et c'est bien là une des grandes différences avec ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une collection. Parce que dans le terme de collection, on a quand même cette idée de pièces assez figées. Et bien là, dans le trésor du Moyen-Âge, les pièces circulent entre cours, entre familles, entre mari et femme, etc., etc. Il y a une circulation intense de ce trésor.
Muriel Godeferragu, je rappelle que vous êtes l'auteur chez Perrin d'un livre consacré au trésor des rois. On se situe là au XIIIe, XIVe siècle en France. Et vous l'avez évoqué rapidement, ce trésor, il a non seulement une dimension très concrète, mais une fonction spirituelle. Au Moyen-Âge, la dimension religieuse est partout. Donc, en quoi est-ce que cette dimension conforte le roi dans sa fonction ?
Alors la dimension religieuse est d'autant plus forte quand on le redéveloppera, je vais parler des reliquaires. Mais de toute manière, le trésor, parce qu'il est composé de pièces d'or, d'argent doré, avec le miroitement de ces pierres précieuses, ce trésor, il part le corps même du souverain. Donc on va parler de bijoux, on va parler de colliers, on va parler du fermail en général, d'or, le principal fermail hein, qui sert donc à fermer hein, ses manteaux et autres vêtements. Et donc on est dans un miroitement sans cesse d'or et de pierres précieuses. Et par là même, on est aussi dans un domaine qui est entre le visible et l'invisible. Puisqu'on sait bien, notamment avec l'abbé Suger et tous ces développements sur la lumière de Dieu, et cette âme qui s'élève aussi grâce à ces miroitements, à cet or, à ces pierres précieuses.
Ça scintille.
Ça scintille. Et on sait bien que dans les églises, donc, il y a ces objets liturgiques hein, qui favorisent cette élévation. Et donc, pour le monarque, son corps lui-même se pare de cet or et de ce scintillement. Et donc, on a sans cesse ces références, d'autant que le monarque, en fait, a cette fonction hein, d'être le médiateur. En
c'est
fait,
un intermédiaire,
un
entre,
intermédiaire
le ciel et la terre.
Entre le ciel et la terre. Et donc, il a aussi pour fonction d'amener son peuple vers le salut. Et donc, il a toujours hein, aussi avec le sacre et cette huile de la Sainte Ampoule hein, qui vient de Dieu. Et donc, il est toujours cet intermédiaire entre Dieu et ses sujets. Et donc, le trésor participe aussi symboliquement de cette idéologie.
Donc, c'est ça, les objets qui l'entourent, qu'il porte ou dont il se sert ou qu'il montre, manifestent cette fonction médiatrice quoi, qu'il occupe et qui font de lui... Est-ce que ça fait de lui un demi-dieu ou il ne faut pas aller jusque-là ?
Non, alors il ne faut pas aller jusqu'au demi-dieu. Ce qui est fondamental, c'est quand même, il faut revenir à la cérémonie du sacre, parce que vraiment, c'est ce qui distingue l'ensemble de l'ensemble des autres monarchies en fait en Europe. La France se distingue avec cette huile de la Sainte Ampoule. Et on sait bien que le roi de France est vraiment sursacralisé hein, par rapport aux autres monarques, par cette huile. Du coup, les rois de France vont sans cesse développer, hein, surdévelopper quelque part, cette fonction sacrée qui est la leur, à partir du sacre, mais aussi par toute une série de cérémonies, de ces objets, etc. Donc c'est un monarque particulier.
Les rois et les reines ?
Alors, vous avez raison, j'accorde une grande importance aux reines dans cet ouvrage, d'une part parce que c'est aussi ma spécialité hein, sur le pouvoir au féminin, et là où bon, le titre de l'ouvrage « Le trésor des rois », mais attention, je pense que dans ce livre, vous avez vraiment un tiers qui sont consacrés ici
aux femmes.
Et donc les reines participent, là encore, de cette communication du pouvoir. Elles disposent également d'un trésor qui leur est personnel. Et d'ailleurs, c'est souvent pour les reines dans les collections là, de nos musées. Donc les reines ont été aussi de grandes mécènes. Et il y a énormément d'objets qui, en réalité, proviennent du mécénat ou appartenaient aux collections justement de ces reines.
Donc elles ont contribué elles aussi à constituer ce trésor, à le montrer et à l'enrichir dans tous les sens du terme.
Exactement, d'autant que quand elles arrivent, elles disposent elles aussi de leur propre trousseau, de leur cassette, et donc leur père, hein, très souvent, donne toute une série de pièces qui doivent participer aussi du prestige de la future reine, et donc du prestige de la famille. Et donc, il y a toute une série de donations et on a souvent l'inventaire, hein, justement, de ces trousseaux. Et donc, on voit très bien qu'elles peuvent participer aussi, parfois, de la promotion, par exemple, de certains cultes quand elles vont arriver avec telle et telle relique ou telle promotion particulière de saints. Enfin, elles sont ambassadrices, quelque part, culturelles et religieuses aussi.
Ce trésor des rois auquel vous consacrez un livre paru chez Perrin, Muriel Godeferragu, expliquez-nous comment il est constitué à travers le temps. Par quel biais est-ce que les rois ou les reines se procurent ces objets précieux ?
Alors, il y a avant tout aussi un héritage. Hein. La collection ne part pas de rien. Et donc, de roi en roi, on peut suivre quand même cette transmission du trésor.
C'est-à-dire qu'elle est passée aussi des Capétiens aux Valois.
Elle passe des Capétiens aux Valois. Alors, le trésor, c'est aussi une réserve monétaire. Et dans cette réserve monétaire, quand un souverain décède, il va falloir payer ses funérailles et il va falloir payer les legs pieux et charitables qu'il a demandé dans son testament. Et donc, à sa mort, là où le trésor circule sans cesse de son vivant, à sa mort, par contre, on a un inventaire et il y a une partie de ce trésor donc qui va déjà servir de réserve pour payer tout cela. Mais ensuite, il subsiste d'autres pièces. Et donc, l'un des rois qui a constitué vraiment le trésor le plus fantastique, c'est ce fameux roi Charles V. À sa mort, donc en 1380, dans l'inventaire, hein, il y a 3900 articles, c'est-à-dire objets, quels qu'ils soient, qui constitue justement son trésor. Pas seulement des pièces orfévrées, mais des tapisseries, des livres, etc. Et donc, il y a une partie des pièces qui peuvent être vendues, mais il y a toute une partie de ces pièces, eh bien, c'est son fils, Charles VI, hein, le fameux roi fou, qui va en hériter. Et à partir de ce trésor déjà constitué, ensuite, il y a bien évidemment le mécénat du roi lui-même, hein, qui joue un rôle très important. Donc, on sait qu'il y a un certain nombre de grands rois ou princes collectionneurs. Alors, j'ai cité la Charles V, mais on peut citer aussi un prince qui est très célèbre, qui est ce fameux Jean, duc de Berry. Quand vous allez au château de Chantilly, vous avez les très riches heures du duc de Berry, donc des enluminures fantastiques, vraiment, sur le Moyen-Âge. Et Jean de Berry est un grand prince collectionneur. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, sur le marché de l'art, il connaît des orfèvres, il a des marchands éclaireurs. Et donc, le mécénat hein, est très important. On va acheter, notamment sur le marché parisien, toute une série d'objets, de colliers divers, reliquaires ou autres. Et donc, ce mécénat permet de grossir, d'agrandir, bien sûr, ce fabuleux trésor. Et puis, pour les reines, c'est un petit peu particulier, puisque je parlais de ce fameux trésor, cette cassette qu'elles amenaient avec elles, en fait, en arrivant à la cour de France. Mais au moment des noces, le futur époux, donc le dauphin ou le roi, eh bien, à son tour, va enrichir considérablement le trésor de la reine. Et donc, il y a des donations, là encore, de pierres précieuses, de couronnes, de bijoux, etc. Et parfois, un certain nombre d'objets que l'on possède encore aujourd'hui. Par exemple, je pense à Charles IV le Bel, donc le dernier des Capétiens. Il offre à sa troisième épouse, donc qui s'appelle Jeanne d'Évreux, et qui est là aussi une grande reine mécène et collectionneuse, eh bien, il va lui offrir non seulement un livre d'heures très célèbre, le livre d'heures de de Jeanne d'Évreux, donc, qui était enluminée par Pucelle, hein, par un grand peintre. Mais de la même manière, la Vierge à l'enfant qui est conservée au Louvre dans la collection des objets d'art et qui est vraiment une pièce centrale de ces objets, c'est sans doute Charles IV qui lui a également offert cette Vierge à l'enfant au moment justement de leur mariage.
Alors tous ces objets, est-ce qu'ils constituent un trésor personnel ou bien ça appartient au royaume, ça appartient à l'État ?
Alors ces objets, c'est vraiment un trésor qui est personnel au roi, à la reine, et ils peuvent vraiment en faire ce qu'ils veulent.
Ils peuvent le dilapider s'ils le veulent.
Complètement. Ils peuvent le dilapider. D'ailleurs, aujourd'hui, dans les pièces de nos musées, il n'y a quand même pas beaucoup, hein, il demeure peu de choses de ce fabuleux trésor des rois et des reines de France, tout simplement parce qu'au fur et à mesure des règnes, le trésor, justement, a été dilapidé. On ne peut pas aujourd'hui imaginer que ces objets qui sont finement orfévrés ou sculptés, peu importe, puissent, du jour au lendemain, être fondus. Hein, on enlève les pierres précieuses. Si ce sont des reliquaires, on va mettre les reliques d'un côté, mais ensuite tout part à la fonte, or, argent doré. Et donc,
Parce qu'il y a besoin d'argent, quoi.
À un moment donné, on a besoin d'argent. Très souvent, c'est parce qu'il y a une expédition militaire à mener. Et on sait notamment que sous le règne donc, de Charles VI, c'est lui qui a hérité de ce fameux trésor fabuleux de son père, Charles V. On sait très bien que à la mort, donc Charles VI arrive au pouvoir en 1380. Il meurt en 1422. En 1422, il ne reste plus que même pas 10% des pièces que lui avait cédé son père.
Muriel Godeferragu, on a bien compris que ce trésor, il sert à alimenter les caisses de l'État, hein, d'une certaine façon. Est-ce que ça entre en conflit parfois avec un roi amateur d'art ou grand collectionneur qui est très attaché à certains de ces objets ? Et d'ailleurs, vous avez dit qu'on ne peut pas parler vraiment de collection puisque ça circule.
Alors, on ne peut pas parler de collection si on se réfère à la définition actuelle du terme. Où on pense vraiment à cette collection un petit peu figée. Mais pour le Moyen-Âge, je pense qu'on peut parler de collection dans la mesure où, par mécénat, par héritage, par achat, les princes s'entourent vraiment de pièces qui constituent cette collection. En fait, on peut même parler de collectionneur quelque part, ouais. Parce qu'en fait, ils recherchent souvent avec soin telle ou telle pièce très précise. On va s'adresser aux meilleurs orfèvres. Parfois, donc, on va dépecer telle et telle couronne parce qu'on sait qu'il y avait tel rubis, telle émeraude que l'on veut particulièrement. Et donc, pour la remettre, hein, il y a des réutilisations aussi sans cesse de ces pièces. Donc, on est vraiment en présence de grands amateurs d'art. On le voit bien aujourd'hui avec ces fameux livres enluminés, mais on le voit aussi sur la beauté de certaines de ces pièces orfévrées qui constituent des joyaux très souvent des collections de nos musées.
Donc quand ils doivent s'en séparer, c'est la mort dans l'âme parfois ?
Alors, la mort dans l'âme sur certaines pièces, ça dépend parce qu'en fait, par exemple Jean de Berry, c'est vrai qu'il réutilise sans cesse des pièces qui ont pu lui plaire à un moment donné. Et puis la mode change et il reprend telle et telle pierre précieuse, on fond tel objet mais on en fait un autre. Et donc finalement, on est sans cesse dans cette réutilisation et puis donc c'est mouvant en fait. Rien n'est figé, tout est sans cesse réutilisé. Pour toujours obtenir mieux, plus beau pendant le règne, quoi.
Alors, vous avez déjà décrit et cité quelques objets, mais vous, à titre personnel, parmi ceux dont on dispose aujourd'hui, lesquels vous frappent le plus ?
Alors, je me souviens d'une exposition à Paris donc, qui s'appelait justement Paris 1400. Et dans cette exposition, le clou vraiment, et d'ailleurs, elle était vraiment protégée, vous avez ce fameux cheval d'or. Le cheval d'or qui est un cadeau de la reine...
Qui est dans votre livre. Il est reproduit dans votre livre.
C'est ça. Donc, il y a un cahier central avec justement ce que je considère comme pour moi les plus belles pièces Orfévrer. Donc, il faut bien voir, parce que tout à l'heure, je parlais des reines et de leur mécénat. Et en fait, c'est l'une des plus belles pièces orfévrées qui subsiste encore aujourd'hui. Et c'est justement une commande donc de la reine. Alors, on l'appelait avant Isabeau de Bavière. Si vous le permettez, je l'appellerai par son vrai prénom, Isabelle de Bavière, hein, puisque dans toutes les sources, dans toutes les lettres, elle est Isabelle. Et Isabeau, c'est un surnom péjoratif. Donc, Isabelle de Bavière, en 1405, commande une magnifique pièce orfévrée pour l'offrir à son époux, donc Charles VI, connu donc comme le roi fou, parce que on est le jour des étrennes. Et en fait, le 1er janvier, il y a une grande fête dans toutes les cours européennes, cette fameuse fête des étrennes, où l'on va s'offrir justement les plus belles pièces orfévrées. Et là encore, on est dans le pouvoir et la communication symbolique, puisque celui qui va offrir la plus belle pièce orfévrée, bien évidemment, témoigne aussi de sa richesse et de sa puissance. Et là, Isabelle de Bavière donc offre une pièce orfévrée avec, en bas, vous avez un cheval d'or et puis l'écuyer, hein, et donc ça a donné son nom, son appellation à ce joyau d'or. Mais vous avez surtout en haut, donc il y a un jardin avec une treille, et vous avez une vierge à l'enfant avec trois saints agenouillés en prière devant la Vierge. Et juste en dessous, puisqu'il y a trois étages, vous avez le fameux roi Charles VI, justement, qui lui aussi est en prière devant la Vierge. Et cette pièce est magnifiquement orfévrée. On utilise toute une série aussi d'émaux. Donc il y a de l'or, de l'argent doré, des pierres précieuses, des perles. Et puis vous avez aussi ces petits personnages avec donc des émaux. Alors là, le visage du roi, hein. Chaque personnage finalement est orfévré, mais dessus on a appliqué donc des émaux.
En termes de dimension, ça représente quoi en hauteur ?
Une trentaine de centimètres, ouais. Il me semble, dans mon souvenir. Mais en tout cas, c'est vraiment une œuvre majeure. Et puis, comme elle est conservée en Bavière et que tout le monde ne pourra pas aller la voir, je parlerai peut-être aussi, parce que là, c'est plus facile, c'est au Louvre, de cette fameuse Vierge à l'enfant dont je parlais, donc, qui appartenait à la collection, au trésor de la reine Jeanne d'Évreux. Et là aussi, il s'agit d'une pièce majeure, en argent doré, où vous voyez une Vierge tenant l'enfant. Elle a une fleur de lys, et dans cette fleur de lys, dans la main, à l'intérieur de la fleur de lys, puisque le lys, hein, est le symbole de la Vierge, mais c'est bien évidemment aussi le symbole de la royauté, et à l'intérieur, vous avez ces fameuses reliques indirectes, certes, de la Vierge, notamment les cheveux ou ce qu'on appelait le lait de la Vierge. Et donc, ces pièces qui étaient dans le trésor, qui étaient dans la chapelle de la reine, elle les donne ensuite à l'abbaye de Saint-Denis, et c'est ainsi que ce trésor a été préservé. Hein, il n'a pas été fondu.
Et ça, c'est visible au Louvre.
C'est visible au Louvre, et ça constitue là aussi une des pièces majeures, vraiment au centre de cette collection d'objets d'art.
Pour contenir ces objets inestimables et pour certains d'entre eux absolument merveilleux que vous nous décrivez, Muriel Godeferragu, il a parfois été nécessaire de construire des bâtiments qui, eux aussi, constituent de véritables joyaux. Je pense bien sûr à la Sainte-Chapelle à Paris. Est-ce qu'on peut mettre ce genre de lieu sur le même plan que les objets pour lesquels ils ont été créés ?
Alors, la Sainte-Chapelle de Paris fait certes partie du Palais du Roi, sur l'île de la Cité, mais elle a quand même un statut à part. Et il faut distinguer vraiment, d'ailleurs, le trésor de la Sainte-Chapelle du trésor personnel dont je parlais, des rois ou des reines. Parce que le trésor personnel du roi, donc, il va les répartir dans différents châteaux, il peut très bien les emmener en déplacement, hein, on sait que Charles V avait toujours un coffre avec justement ses joyaux les plus précieux. Et donc, il ne faut pas oublier que les rois, comme les reines d'ailleurs, sont à ce moment-là itinérants. Et donc, ils se déplacent sans cesse. Et avec eux, bah, justement, le coffre avec les objets de leur trésor. Alors, il y en a certains qui sont pétrifiés dans des châteaux particuliers. On sait qu'à Melun, à Vincennes, au Louvre, justement, on a énormément de pièces de cette collection. Mais attention, ils ne sont pas tous rangés dans des armoires, dans des coffres. Non, ils servent aussi, et notamment à la vie aulique, à la cour du roi. Donc là encore, pour témoigner aussi hein, de son pouvoir. Alors il faut distinguer ce trésor personnel, dont le roi fait vraiment ce qu'il veut,
qu'il donne, enfin voilà, un trésor qui circule, du trésor de la Sainte-Chapelle, parce que le trésor de la Sainte-Chapelle, finalement, même si le roi, et c'est là son pouvoir, surtout le pouvoir du roi de France, c'est de pouvoir détacher, donc notamment des épines de la couronne d'épines, des fragments du bois de la Vraie Croix, des fragments du chef de Saint-Jean-Baptiste, peu importe. En tout cas, c'est un roi qui peut détacher ce trésor inestimable qui se trouvait à la Sainte-Chapelle de Paris, soit pour mettre ses pièces dans son propre trésor personnel, soit en faire don. Alors, très souvent à la reine, quand il épouse la reine, il faut qu'elle fasse partie de cette dynastie des Capétiens ou des Valois, peu importe. Et donc, le plus précieux, on lui donne à chaque fois une épine ou un fragment du bois de la Vraie Croix. Et puis surtout, le roi va ensuite être un roi donateur aussi avec les souverains étrangers ou d'autres cours. Et là encore, il peut prélever donc dans le trésor de la Sainte-Chapelle ces fameuses épines et ensuite les donner. Mais le trésor de la Sainte-Chapelle de Paris, attention, ce n'est pas le trésor non plus complètement personnel du roi. Et d'ailleurs, la Chambre des comptes, aujourd'hui ce qui est la Cour des comptes, mais avant la Chambre des comptes, a un droit de regard justement sur ce trésor de la Sainte-Chapelle.
Parce que là, on est face à des objets donc, de la Passion du Christ, réputés avoir été, que le Christ a apporté ou sur lesquels il a été cloué. Ça dépasse le règne d'un seul homme.
Oui, vous me demandiez si finalement le trésor était déjà une partie de l'État moderne quelque part. Alors non, puisqu'on a vu qu'il circulait sans cesse et qu'il était sans cesse donné. Mais en revanche, pour le trésor de la Sainte-Chapelle, vraiment, on a cette continuité quand même, même si parfois on va aussi vendre, enfin, ou en tout cas fondre certaines pièces. Mais quand même, c'est un trésor qui est quand même beaucoup plus fixe et qui participe justement de la construction aussi de l'État.
Donc pour repréciser les choses, il s'agit d'objets ramenés de Terre Sainte.
Tout à fait. Donc, alors Saint-Louis. Là, on est cette fois au XIIIe siècle, sous le règne de Louis IX de Saint-Louis. Et effectivement, il a acquis, il a acheté en réalité à l'empereur de Constantinople, donc Baudouin II. Il achète en 1238 et en 1239, c'est là que les reliques arrivent, ce fabuleux trésor, donc les reliques les plus prestigieuses, les plus insignes de l'ensemble de la chrétienté. Et c'est le roi de France qui en est maintenant le trésorier. Donc c'est ça qui lui donne aussi un statut, une sursacralisation par rapport aux autres monarques. Et donc il s'agit effectivement de la couronne d'épines que portait le Christ. Il s'agit du bois de la Vraie Croix que Sainte Hélène aurait retrouvé à Jérusalem. Et puis, il s'agit d'autres reliques très prestigieuses, notamment, je parlais du chef, c'est-à-dire la tête de Saint Jean-Baptiste, la lance, etc., etc. Et ces reliques, donc, appartenaient à l'empereur de Constantinople. À un moment donné, l'empereur de Constantinople a besoin de financer une expédition militaire. Il les met en gage auprès de Vénitiens. Et c'est Louis IX et sa mère, Blanche de Cassis, qui a joué aussi un rôle, qui décide de s'emporter acquéreur. Et c'est ainsi qu'on a tout le récit de l'arrivée dans le royaume de France de ces fabuleuses reliques. Et là encore, il y a toute une série de cérémonies qui accompagnent l'arrivée de ces reliques.
Le Godeferragu, pour poursuivre sur la question des reliques, elles font aussi l'objet de beaucoup d'échanges, de cadeaux, notamment à des communautés religieuses, à des abbayes. Et elles constituent un trésor ?
Le roi de France, parmi toutes les pièces de son trésor, eh bien, vous avez une fabuleuse collection justement de reliques et de reliquaires, bien évidemment, puisque une relique nue n'a pas de valeur si elle n'est sertie dans un écrin. Donc Charles V, ce grand roi collectionneur, par exemple, dans l'inventaire de son trésor, a entre 200 et 250 reliquaires.
Et il va offrir, donc là aussi, le roi de France est un roi donateur. Et il va offrir, alors, ses reliquaires, ou je reviens aux reliques de la Sainte-Chapelle, dans la diplomatie, il y a toujours, ce qui ponctue une entrevue, ce qui ponctue une paix, on va avoir des cadeaux, hein, notamment donc de pièces orfévrées, et ça va être des cadeaux qui scellent un accord. Et pour les accords les plus précieux, eh bien, le roi de France décide de détacher, là encore, des épines de la couronne d'épines ou des fragments de la vraie croix. Et quand vous êtes à Prague avec ce fameux empereur si célèbre, hein, Charles IV, il a un château magnifique à Karlstein, donc c'est juste à côté de Prague. Et encore aujourd'hui, dans les chapelles majeures de ce palais, vous avez une fresque qui représente justement la donation. Et on voit le roi Charles V, donc français d'un côté, l'empereur du Saint-Empire romain germanique Charles IV de l'autre, et le roi de France lui remettant justement une épine de la couronne d'épines et un fragment de la vraie croix. Et ça va constituer l'un des trésors fabuleux aussi de cet empereur Charles IV. Donc on a vraiment, dans la mission là, dans cette fonction des reliques et des reliquaires, on voit que diplomatiquement, ça scelle les accords les plus précieux.
Mais pour des reliques moins prestigieuses, en quoi est-ce que c'est important, par exemple, de les offrir à une abbaye ou à un monastère ?
Alors, effectivement, il y a toute une série de reliquaires. Hein, on est vraiment dans les dons et les contre-dons. Donc, le roi, parfois, donc, fait juste une donation, eh bien, tout simplement parce que, encore une fois, dans l'échange propitiatoire, obtenir des prières, des messes. On voit très bien Jeanne d'Évreux, justement, quand elle offre cette fameuse Vierge à l'enfant à l'abbaye de Saint-Denis, il s'agit pour elle d'obtenir toute une série de messes, notamment pour le salut de son mari défunt, Charles IV le Bel, puis aussi pour elle, pour sa famille, etc. Donc, on a toujours ces donations. Et puis, parfois, le roi veut acquérir, ou le prince veut acquérir, telle et telle relique particulière pour sa collection. Et donc, là, on va avoir un échange qui s'effectue, ben, quelque part. Je voudrais bien une relique du martyr de la Légion thébaine, en échange, donc là je pense notamment à Louis IX et à l'abbaye de Saint-Maurice d'Agone, donc où il va obtenir ses reliques de Saint-Maurice et de la Légion thébaine, et en échange, il donne une épine de la couronne d'épines ou un fragment de la vraie croix.
C'est presque du troc, quoi.
Voilà, don et contre-don, on va dire. Mais voilà, donc sans qu'il y ait toujours don et contre-don, il y a vraiment par contre don pour obtenir des prières, des messes, etc.
Est-ce que le roi est entouré de quelqu'un ou de plusieurs personnes qui sont chargées de surveiller ce trésor, de temps en temps de vérifier que tout est en place, d'en faire l'inventaire? Alors vous disiez que ça c'est essentiellement au moment de la mort du roi, mais de noter quelque part que tel objet a été donné en échange de tel autre ou offert?
Alors pour chaque trésor, en fait, il y a un trésorier qui est justement le garde du trésor, et qui est chargé ben, non seulement d'inventorier, mais alors en plus, là aussi, de noter les entrées, les sorties, etc. Alors, le problème, c'est que les sources, on n'a pas toujours tout conservé. En revanche, Jean de Berry, toujours ce fameux grand collectionneur, amateur d'art, Jean de Berry, alors lui, on a trois inventaires, en fait, de son trésor. Et donc là, on voit exactement, justement, les entrées, les sorties, les échanges. Alors il y a l'inventaire lié à sa mort, mais auparavant, de son vivant, à chaque fois qu'il obtient un bijou, un collier, une relique,
c'est notifié.
Tout est notifié, et de même quand ça sort. Donc finalement, c'est d'une richesse considérable.
Ça vous donne des tas d'informations.
C'est l'inventaire, l'un des inventaires vraiment les plus précieux. J'ai dit tout à l'heure que on avait beaucoup d'inventaires après décès. Attention, avec le roi Charles V, justement, toujours le même, là, 1364-1380, eh bien, lui, déjà, quand il est dauphin, il demande un inventaire de son trésor pour savoir aussi de combien il peut disposer, quelles sont ses ressources. Et même si ça a été perdu, sans doute qu'un certain nombre de princes, également, faisaient faire ces inventaires de leur vivant même.
Le trésor des rois, c'est le titre du livre que vous publiez aux éditions Perrin, Muriel Godeferragu, Sacré et royauté des rois maudits aux princes de la Renaissance. Parlons maintenant de la fonction de ce trésor. Alors vous nous avez expliqué au début de ces entretiens que essentiellement il sert à asseoir
le pouvoir et l'autorité du roi, mais j'aimerais que vous développiez un peu cet aspect-là. En quoi le fait de posséder des objets d'art, des pierres précieuses, de l'or et de l'argent, valide, légitime un pouvoir ? Plus on est riche, plus on est puissant, c'est ça ?
Un petit peu, oui. Alors, ça valorise vraiment le pouvoir du fait même que le roi est capable d'accumuler. L'accumulation, la thésaurisation participe de la richesse et du pouvoir du roi. Donc, juste l'accumulation, déjà, est un pouvoir, cette possibilité d'accumuler. Et alors, en plus, ce que le roi possède au sein de son trésor, eh bien, est connu, en réalité, même si c'est un trésor personnel. On voit très bien, notamment, la biographe de Charles V, donc cette fameuse première grande femme écrivaine, Christine de Pizan. Donc, elle a écrit une biographie de Charles V, et elle parle du trésor, je vais la citer en français du coup, pour que tout le monde puisse se rappeler de ce trésor. Donc il y a la fonction aussi, même si on ne l'a pas vu, on le connaît et ça participe du pouvoir du roi.
Ça se sait.
Ça se sait. Ouais. Alors en plus, le roi lui-même fait visiter ce fabuleux trésor à ses invités de marque. Et on sait très bien que le fameux empereur, donc Charles IV, qui venait de Prague, qui est son oncle, quand il fait une très grande visite en 1378, qui est très célèbre, il vient donc dans le palais de la Cité. Et dans le palais de la Cité, c'est lui qui demande à aller voir justement ces fabuleuses reliques de la Sainte-Chapelle de Paris. Et donc on a tout le récit vraiment détaillé. Il monte dans la tribune des reliques et il va pouvoir admirer et même embrasser ces fameuses reliques. Eh bien, il y a la visite à la Sainte-Chapelle de Paris, mais parallèlement, il y a aussi la visite que lui fait faire Charles V, justement, de son trésor. Et il demande à voir une couronne très précise, donc qu'il connaissait par ailleurs. Donc on a ces visites de trésor. Et puis, encore une fois, le roi de France est un roi donc donateur, mais comme tous les autres princes. Et donc, avec cette circulation, ces dons, ces contre-dons, là encore, l'objet qui est donné participe de ce pouvoir et montre la richesse et la capacité, alors non seulement d'avoir ces pièces en or, en argent doré, etc., mais aussi la beauté de ses œuvres participe aussi du prestige du roi. Hein. Il a les meilleurs orfèvres, quelque part.
Donc, il consent aussi à montrer, à exposer parfois, ou ça va pas jusque-là ? Est-ce qu'il peut y avoir des mises en scène de certains de ces objets ou de certaines de ces parures aussi qu'il peut revêtir à des moments particuliers lors de cérémonies ?
Tout sert en fait à cette communication. Bien évidemment, les vêtements tissés d'or, le collier d'or du roi, ce fermail. Pour avoir une idée des fermeaux, justement, orfévrés, je vous invite à aller au musée de Cluny qui vient de réouvrir. Et dans une des salles, vous avez un fermail. C'est pas du tout une petite broche. Là, le fermail, c'est un fermail, justement, à l'aigle, qui est une commande, je parlais de Charles IV de Prague, donc c'est une commande d'un roi de Bohême. Et vous avez, c'est un aigle tout en or, serti de pierres précieuses absolument magnifiques. Il est très grand et on voit ce fermail. Donc le corps lui-même du roi, lors des grandes cérémonies, est paré d'or, de pierres précieuses, de lumière. Mais également, effectivement, dans les pièces que l'on fait visiter, il y a cette mise en scène du trésor, on passe dans les appartements, donc on a notamment la visite, alors il s'agit d'un prince, mais peu importe, le grand duc de Bourgogne, Philippe le Bon, on est cette fois dans les années 1460, et on est à la cour de ce duc de Bourgogne, eh bien là encore on a tout un récit où on a un voyageur qui arrive, un ambassadeur, et il fait visiter donc les pièces fabuleuses de son trésor. Alors ça va être le chapeau couronné, ça va être tel et tel reliquaire, ça va être, enfin il y a toute une série de pièces, c'est pas forcément donc des reliquaires, mais en tout cas tout ça participe de son pouvoir, et donc on a une mise en scène et une visite de chaque pièce de ce trésor.
Le sceptre et la couronne, par exemple, font partie du trésor ?
Alors le sceptre qui est donné au roi au moment de son sacre, ça fait partie d'un trésor, ce qu'on appelle les régalia, la couronne aussi et la main de justice, mais ce trésor est conservé à l'abbaye de Saint-Denis, parce que l'abbaye de Saint-Denis donc, est dépositaire non seulement des corps des rois qui y sont inhumés, mais également de ce qui va, au moment de leur sacre, leur donner aussi ce pouvoir, cette fameuse couronne. Alors en plus, dans la couronne du sacre, hein, il y en a deux, il y a la couronne dite de Charlemagne et la couronne dite de Saint-Louis, mais il y en a une qui, à l'intérieur, avait des épines, de la couronne d'épines.
Vous avez parlé à plusieurs reprises de communication, Muriel Godeferragut. Quand vous parlez dans votre livre également du roi cérémoniel, ça a quelque chose à voir, c'est-à-dire qu'on est dans le symbole total, quoi.
Tout à fait. Et le roi se met en scène, parfois, lors de certaines cérémonies, en roi trésorier, par excellence. D'autant qu'il s'agit de cérémonies qui peuvent être organisées à la Sainte-Chapelle de Paris, donc dans le lieu le plus sacré du royaume, ce qui sert un petit peu, on appelle ça le palladium, le bouclier sacré du roi, de sa famille, de Paris, mais également de l'ensemble du royaume. Et donc on a quelques grandes cérémonies. Alors on peut revenir à cette fameuse visite de l'empereur Charles IV, puisque là, je disais donc qu'il était venu jusqu'à la Sainte-Chapelle de Paris, qu'il a pu embrasser ses fameuses reliques, mais ça va beaucoup plus loin, puisque lors du 6 janvier pour la fête de l'Épiphanie, le roi Charles V se met en scène en roi mage. Il va venir offrir l'or, la myrrhe, l'encens successivement au sein de la Sainte-Chapelle de Paris lors de cette visite impériale. Et ce fameux roi Charles V, on sait également que est-ce qu'il le faisait chaque année? Ça, on n'en est pas très sûr. En tout cas, à Pâques, lors du vendredi de la Passion, là encore, il se rendait à la Sainte-Chapelle de Paris et il pratiquait ce qu'on appelle l'ostension de la vraie croix. C'est-à-dire que c'est lui qui présentait aux fidèles assemblés dans la Sainte-Chapelle de Paris cette fameuse vraie croix, sachant que normalement, seuls les prêtres peuvent faire cette fameuse ostension.
Qu'est-ce que ça signifiait là?
Là, c'est vraiment le roi sursacralisé. Alors, on ne peut pas parler d'un roi prêtre du sacerdoce parce qu'il ne l'est pas. Mais quand même, il s'attribue une fonction particulière en tant que trésorier des reliques les plus insignes de la chrétienté. C'est lui qui les montre. Chaque vendredi saint, on a cette fameuse répétition d'une cérémonie là, qui met... C'est pour ça que je parlais de communication aussi. Hein. Là, on est vraiment dans la représentation symbolique du pouvoir. Le roi, quelque part, prêtre, juste pour cette cérémonie, à ce moment-là, le vendredi saint. Bien évidemment, ça met en scène son pouvoir.
Concernant la reine, est-ce qu'il y a des objets qui lui sont plus particulièrement attribués, qui lui appartiennent plus particulièrement?
Alors, la reine dispose d'un trésor similaire à celui du roi, notamment à propos des reliques et des reliquaires. Comme j'avais l'inventaire de leur trésor, je me suis demandé s'il n'y avait pas des reliques une cour céleste qui serait un peu genrée, c'est-à-dire où il y aurait des reliques plus spécifiquement féminines. En réalité, on est vraiment dans une circulation. D'ailleurs, c'est très difficile parfois de voir ce qui relève de la piété personnelle de tel ou tel souverain, de telle ou telle reine, quand on inventorie le trésor, parce que vous avez sans cesse ces circulations. Et donc, on a des donations, elles-mêmes donnent, etc. Voilà, donc il y avait quelques reliques dans le trésor des reines, notamment avec les reliques indirectes de la Vierge, où on va retrouver sans cesse des reliques de Sainte Catherine, de Sainte Marguerite, etc. Mais en réalité, quand on se penche sur le trésor des rois, on retrouve aussi les mêmes reliquaires.
Pour bien se figurer les choses, c'est une époque où le sacré et le profane cohabitent tout le temps, quoi.
Voilà, la religion est partout. La reine, comme le roi, de toute façon, dispose d'une chapelle au sein de son palais. La chapelle, c'est pas simplement le lieu, c'est aussi que au sein de leur hôtel, ils ont tout un service de la chapelle. Et donc, on a des célébrations qui sont quotidiennes. Et puis, dans tous les palais, on a l'oratoire. Il y a donc la chapelle publique, entre guillemets, mais il y a aussi l'oratoire privé. Et donc, voilà, je parlais de Christine de Pisan qui a écrit cette fameuse biographie du roi Charles V. Et elle nous décrit la journée du roi. Et on voit que la prière occupe aussi une place très importante.
Vous disiez que le roi et la reine ont des trésors distincts. Est-ce que le roi a l'autorisation de piquer dans la caisse de la reine pour financer, par exemple, des expéditions, des guerres ou autre chose ?
Normalement, ce sont vraiment des trésors séparés et le roi prend dans son propre trésor. On voit beaucoup de pièces justement qui sont prélevées pour être fondues, etc. Mais j'ai pas en tête mention de vol entre guillemets qui serait fait dans le trésor de la reine. En revanche, il y a une révolution à Paris dans les années 1413. Entre 1413 et 1418, on est en pleine guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons. Et là, on sait que à un moment donné, les Armagnacs ont voulu s'emparer du trésor de la reine, qui est à ce moment-là Isabelle de Bavière. Donc il y a volonté d'appropriation, mais là, c'est pas le fait du roi.
Tout ce qui constitue ce fameux trésor du roi qui aura occupé nos entretiens, Muriel Godeferragu, vous l'avez dit, a vocation à bouger, parce que le roi est itinérant. Il se déplace d'un château à l'autre et le trésor le suit. Et puis le roi, c'est une partie importante aussi de votre livre, non seulement est un roi itinérant, mais est un roi pèlerin. En quoi est-ce que cette dimension a à voir avec le trésor ?
Alors vous avez raison, dans mon livre, en réalité, il y a deux parties. Vraiment le trésor personnel du roi, donc il n'y a que certaines pièces, attention, qui le suivent. Il y a aussi beaucoup de pièces qui demeurent donc vraiment dans des châteaux, les châteaux les mieux fortifiés justement.
À l'abri.
Alors Melun, le Louvre, etc. Donc parce qu'il faut protéger avant tout ce trésor. Mais donc il y a d'autres pièces effectivement qui le suivent. Donc ça c'est la première partie de mon ouvrage. Et l'autre partie c'est un livre sur le sacré, royauté et sacré. Et du coup, l'autre partie, c'est aussi, le roi se sert des reliques de son trésor pour soigner certaines maladies ou pour tel et tel accouchement, on va donner telle et telle relique à la reine, etc. Donc, on se sert quand même des reliques au sein du trésor personnel. Mais, bien évidemment, les reliques les plus puissantes, entre guillemets, avec cette vertu miraculeuse, on va aussi la rechercher dans les sanctuaires spécialisés.
Par exemple ?
Alors, le roi se rend très fréquemment... Alors, l'abbaye de Saint-Denis, il y a des pèlerinages royaux, même si c'est en Île-de-France, ça fait partie des grands pèlerinages du roi. Mais bien au-delà, le roi se rend au Mont-Saint-Michel, le roi se rend à Rocamadour, le roi va se rendre Chartres, au Puy, à Chartres, enfin tous les grands sanctuaires que l'on connaît et qui sont encore très célèbres aujourd'hui, on a ces déplacements qui sont faits. Alors parfois d'ailleurs en fonction du vœu que l'on souhaite être exaucé. Et on sait que... alors là, par exemple, pour la folie du roi Charles VI, on fait venir le suaire de Cadouin parce qu'il est réputé, il y a une vertu miraculeuse pour guérir, en tout cas, soigner ces fameuses folies du roi. Donc, on a aussi le sacré est utilisé comme pour tous les pèlerinages. On a des actions de grâce parfois, mais souvent, on peut avoir aussi des demandes qui sont faites.
Et donc, dans ce cas-là, le roi offre ou laisse quelque chose sur le lieu de son pèlerinage comme gage, en quelque sorte, de sa démarche pieuse.
Tout à fait. On a ces récits, justement, de ces pèlerinages. Alors, parfois, on ne sait pas toujours s'il fait son déplacement pour aller dans tel et tel lieu de pèlerinage, ou plus souvent, ça fait partie du tour qu'il fait aussi, politiquement, il a besoin d'ancrer sa présence dans telle et telle région.
Et il se montre, du coup, comme
ça. Il se montre, le roi est sans cesse en déplacement, il se montre sans cesse. Et à ce moment-là, eh bien, ils visitent aussi tel et tel sanctuaire. Donc en fait, les deux sont liés, hein. Religion et politique sont liés. Alors on sait qu'il y a des rois qui sont plutôt des rois, on va dire, franciliens, qui se déplacent vraiment au sein de l'Île-de-France ou dans le bassin parisien, et notamment Charles V, il s'est très très peu déplacé. En revanche, le premier roi valois, je parlais du changement de branche en début de semaine, donc Philippe VI de Valois, lui, il va entreprendre de faire tout un tour de son royaume. Donc il se montre vraiment dans le midi de la France, hein, comme dans le nord du royaume. Et là, on sait qu'il a visité tel et tel sanctuaire. Il est allé en pèlerinage. Alors notamment à ce moment-là, c'est Saint-Louis d'Anjou à Marseille. Vous avez son tombeau. Et donc on sait qu'il s'est rendu aussi en pèlerinage auprès de ce tombeau. Mais partout, hein, il fait vraiment œuvre. Il est pèlerin. Il est le pèlerin.
En général, il se déplace lors de ses pèlerinages avec la reine, ou ça n'est pas une nécessité?
Alors, ça dépend complètement. Là, en l'occurrence, Philippe VI, en 1336, quand il fait ce grand tour du royaume, la reine Jeanne de Bourgogne l'accompagne, d'autant qu'elle est enceinte, et donc elle porte aussi la continuité de la nouvelle dynastie, entre guillemets. Et donc elle est aussi présentée au sujet du royaume. Donc on voit sans cesse, hein, ces entrées dans les villes, et en même temps on va voir tel et tel sanctuaire. Bon, il y a certains rois, par contre, on sait très bien qu'ils ont entrepris tel et tel pèlerinage spécifiquement, enfin, tel et tel voyage, vraiment spécifiquement pour se rendre, par exemple, au Mont-Saint-Michel pour Charles VI aussi. Hein, donc, c'est vrai qu'avec le XVe siècle, on va avoir plus de déplacements, notamment vers le Mont-Saint-Michel, qui est le sanctuaire ensuite avec Charles VII. On sait que Saint-Michel, et puis après avec son fils Louis XI, ça devient le grand saint aussi du royaume. Et donc on a ces déplacements aussi au sanctuaire du Mont-Saint-Michel.
Et ça peut les conduire aussi à aller au-delà des frontières du royaume ?
Alors c'est là justement le grand changement avec les siècles précédents. C'est-à-dire que le roi n'est pèlerin que au sein de son royaume. Il est vraiment dans le jardin, ce qu'on appelle le jardin des fleurs de lys. Et il va de sanctuaire en sanctuaire, mais il ne sort plus du royaume de France. Là où un roi comme Louis VII, donc on est cette fois au XIIe siècle, s'est rendu jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle. Et donc, en revanche, les reines entreprennent leur pèlerinage propre. Et Marie d'Anjou, donc, qui est l'épouse du roi Charles VII, donc elle vient de l'Anjou, c'est-à-dire que les ducs d'Anjou sont aussi comtes de Provence. Donc elle est aussi donc la Sainte Baume, enfin elle a visité tous ces sanctuaires provençaux, et elle décide d'aller en voyage jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle. Donc c'est une reine qui, elle, sort par contre des frontières du royaume.
Est-ce qu'on peut dire, Muriel Godeferragu, que l'âge d'or de ce trésor du roi, ce sont les XIIIe et XIVe siècles ?
C'est un trésor. On voit cette accumulation donc au XIIIe. Donc c'est le début en fait de l'histoire du trésor tel qu'on le connaît ensuite. Ces collections, elles vont perdurer. Mmh. Et en fait, là, je me suis arrêtée au prince de la Renaissance. Mais bien évidemment, il faudrait aller largement au-delà, puisque on voit que tous ces grands mécènes, avec la Renaissance, avec les collections qui sont accumulées, perdurer l'histoire de ce trésor, avec quand même un changement fondamental, qui est que certaines pièces du trésor du roi vont ensuite faire partie d'objets patrimoniaux. C'est-à-dire qu'il peut plus... C'est partie de ce qu'on appelle la couronne, les joyaux de la couronne. Et donc, ces joyaux-là sont, pour le coup, pétrifiés. Et il peut plus, ensuite, les céder comme il le faisait au XIVe et XVe siècle. Donc, on est cette fois sous François Ier. Et du coup, ces joyaux de la couronne qui proviennent pour beaucoup des collections de la reine Anne de Bretagne, qui elle-même en avait hérité de ses pères, donc les ducs de Bretagne, eh bien, ces objets, donc, ensuite, vont servir comme noyau, finalement, à ces joyaux de la couronne.
Est-ce que ce trésor a souffert à la Révolution ?
Alors, le trésor a souffert à la Révolution énormément, mais, encore une fois, du règne même d'un certain nombre de rois, on
déjà
ces trésors qui sont fondus. Il faut vraiment voir que c'est une réserve financière. Et encore une fois, Charles VI, à sa mort, il n'y a plus que 10% du trésor de son père. Donc, il faut imaginer vraiment ces fontes massives. Alors, à la Révolution française, là, le trésor disparaît pratiquement complètement. C'est les pièces que l'on possède encore très souvent, c'est aussi des pièces qui ont été cédées à telle et telle abbaye à un moment donné, et donc on n'a pas eu forcément ces fontes. On peut penser au trésor de la Sainte-Chapelle de Paris, puisque vous aviez ce qu'on appelle la grande chasse reliquaire, et justement, à l'intérieur, c'est là que vous aviez la couronne d'épines, la vraie croix, etc., etc. Eh bien, tous ces reliquaires qui ont coûté beaucoup plus cher que la construction même de la Sainte-Chapelle de Paris. Donc, c'est vraiment des trésors fabuleux. On a employé énormément d'or, de pierres précieuses. Eh bien, à la Révolution française, on sait bien que tout a été fondu.
Donc, c'est une perte inestimable aussi, mais on a des traces grâce aux documents dont vous nous avez parlé.
Et aussi, tout a été fondu, mais on aurait conservé quand même quelques épines de la couronne d'épines et du bois de la vraie croix. Et on sait bien que de nouveaux... Donc ça a été préservé. Et de nouveaux reliquaires, notamment au XIXe siècle, ont été du coup orfévrés. Et vous savez bien que quand il y a eu ce fameux incendie de Notre-Dame de Paris, on a sauvé justement ces reliquaires.
Et quand on parle des trésors d'une cathédrale, parfois, ça fait partie des... Il y a des objets comme ça qui sont venus de ce trésor du roi ?
Tout à fait. Il y a énormément de pièces des trésors des cathédrales. D'ailleurs, de toute façon, ce sont les mêmes problématiques. Que ce soit un trésor d'église ou le trésor des rois, on est dans les mêmes objets. Et très souvent, c'est aussi des dons de ces fameux rois ou reines aux églises.
Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette série d'entretiens, Muriel Godeferragu. Je rappelle que votre livre s'intitule « Le trésor des rois, sacré et royauté, des rois maudits aux princes de la Renaissance ». C'est un livre qui est paru aux éditions Perrin. Encore un grand merci à vous et merci à Pierre-Henri Paget qui était à la technique.
Merci à vous.